Session de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe, le 17 septembre 1996, première conférence.
On continue de répondre aux questions.
Qu'est-ce qui distingue au niveau philosophique la certitude de l'évidence ? Vous avez dit qu'Aristote recherche la vérité et Descartes la certitude. La recherche de la vérité peut-elle assumer une recherche de certitude ? Et est-ce que la recherche de la certitude ne conduit pas à un repliement de l'intelligence qui n'assume plus une recherche de la vérité ? Une question d'ordre pratique. La recherche des trois sagesses prend-elle des modalités différentes pour un laïc, un religieux, une religieuse ?
Celle des religieuses qui les distincts de cette des laïcs. Notre cher évêque dirait « Il y a des couleurs différentes. » C'est vrai que pour un homme, l'attitude de la vérité prend ordinairement, je dis ordinairement, « ut in pluribus », comme dirait Aristote en grec et saint Thomas en latin, la plupart du temps, « ut in pluribus ». La plupart du temps, la recherche de la vérité pour un homme a une précision, une netteté plus grande. Pour une femme, l'aspect de la disposition affective joue ordinairement, je dis ordinairement, parce qu'il y a des hommes qui sont très proches des femmes dans cette manière de regarder la vérité. Il y a des femmes qui sont très proches des hommes. Surtout aujourd'hui. Avant, l'éducation des hommes et des femmes était très différente. Il y avait les poupées et puis les soldats. Et c'était très différent. Je dis moi que tu fréquentes et je dirais qui tu es. Alors on voit très bien. Comment il peut y avoir quelque chose de spécial. Si on joue toujours à la guerre, ou si on joue toujours à la poupée, c'est pas la même chose. Il y a un climat différent. Et la vérité est saisie un peu différemment au niveau des dispositions. C'est au niveau des dispositions qui est différent, pas au niveau de la vérité comme telle. Alors, on peut dire ça, et on peut dire que pour un religieux qui est normalement, je dis normalement, ut in pluribus, parce qu'il y a quelquefois des laïcs qui sont plus religieux que des religieux. Ça existe aujourd'hui. Je crois que ça a toujours existé. Il y a des religieux qui se replient sur eux-mêmes. Il y a des laïcs qui se replient sur eux-mêmes. C'était laïque, entièrement donné à la recherche de la vérité. Toujours. C'était entièrement donné. Et puis, il y a des religieux qui sont entièrement donnés à la recherche de la vérité. Donc, vous voyez, là encore, c'est de l'ordre des dispositions. Mais, normalement, le climat religieux doit aider à contempler et mettre chez l'homme religieux, chez la religieuse, une attitude de contemplation qui lui fait aimer cette recherche de la vérité. Et c'est de l'ordre de la disposition, il n'y a pas de principe.
Vous avez dit hier que Dieu n'a pas besoin d'un langage, il n'a pas besoin de parler. Comment fait-il donc comprendre l'expression de verbe pour la deuxième personne de la très sainte Trinité comme terme d'un langage divin que nous ne connaissons pas, ou bien comme fruit de sa contemplation? Mais pourquoi l'expression verbe?
Parce qu'il est donné dans l'Écriture. De plus beau et de plus grand. Une fécondité divine. qui est nécessaire à la perfection. Et donc, le mystère de la très sainte Trinité s'impose à nous comme une nécessité. On a la Trinité plotinienne. Et la Trinité plotinienne n'est pas du tout le mystère de la très sainte Trinité. Il y a nécessairement en Dieu une fécondité pour Plotin. L'un engendre l'intelligence, le nous, et le nous engendre l'âme. Ça, c'est la Trinité plotinienne, selon une nécessité. Et Plotin, ne l'oublions pas, a joué un très grand rôle auprès de beaucoup de pères grecs, de pères de l'Église grecque. Parce que c'est évidemment intéressant de voir comment, au plan philosophique, on peut concevoir une fécondité en Dieu. C'est pas tout à fait la vérité, mais c'est intéressant de voir qu'on s'approche de la vérité. Parce que c'est vrai que la fécondité réclame la perfection. Mais pour nous, la perfection n'exige pas la fécondité. Dieu est parfait. Et il n'y a pas nécessairement la fécondité en Dieu. On sait que le mystère de la très sainte Trinité est complètement au-delà de toute recherche philosophique. Et que je ne peux pas, à partir de la perfection qui est en Dieu, dire qu'il y a en lui une fécondité. Je le dis dans la foi, je ne dis pas par nécessité intellectuelle.
Alors pourquoi, si on adhère dans la foi à la très sainte Trinité, on a encore besoin de rechercher l'existence de Dieu par la philosophie ?
Oui. Ça, c'est une question très importante. Le grand danger, c'est Paul VI, notre pape Paul VI, qui disait cela, et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Paul VI, à une petite audience de théologiens, a déclaré que le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui, c'était le fidéisme. Le fidéisme consiste à dire que seule la foi me permet d'adhérer à l'existence de Dieu. Mon intelligence est incapable par elle-même d'adhérer à l'existence de Dieu. Parce que les conséquences du péché originel ont blessé mon intelligence. Donc, sans la foi, je ne peux pas adhérer à l'existence de Dieu, à l'existence d'une âme immortelle. Seule la foi me permet de dire que mon âme est immortelle, qu'elle existe et qu'elle est immortelle. Alors que, selon l'enseignement de l'Église catholique, l'intelligence humaine peut atteindre les préambula fidei, les préambula, c'est-à-dire tout ce qui est avant la foi. Il faut comprendre que mon intelligence humaine peut par elle-même découvrir l'existence de Dieu, découvrir l'existence de mon âme immortelle. maintient avec force que l'intelligence humaine peut, par elle-même, affirmer l'existence de Dieu. Par l'existence de la très sainte Trinité, l'existence de Dieu, d'un seul Dieu. Mon intelligence est faite pour Dieu, naturellement. Et donc, refuser à mon intelligence de découvrir l'existence de Dieu, c'est refuser à mon intelligence de se découvrir elle-même.
Alors, si on refuse la position de l'Église en disant que les conséquences du péché n'ont pas atteint l'intelligence, on aboutirait à ne plus distinguer entre philosophie et théologie. Mais pourquoi le péché n'a-t-il pas atteint l'intelligence? N'est-ce pas toute la nature humaine qui est brisée? Or, cette nature est spirituelle et l'esprit est intelligence et volonté. Comment l'intelligence peut-elle ne pas avoir été touchée par le péché? Ou bien est-elle atteinte dans son exercice?
Mon intelligence est atteinte dans son exercice, pas dans sa nature. Parce que l'intelligence fait partie de la nature humaine. Et la recherche de la vérité fait partie de ce qu'est la personne humaine. Et la personne humaine ne se développe parfaitement d'elle-même que dans cette recherche de la vérité. Et donc, si mon intelligence ne pouvait pas atteindre la vérité ultime, elle serait atteinte dans sa propre nature. Tandis que je dois dire qu'elle n'est pas atteinte dans sa propre nature, mais qu'elle est atteinte dans son exercice. En raison, tout simplement, de la paresse. Je crois qu'on peut tous dire, examen de conscience, que nous avons tous perdu du temps. Nous n'avons pas eu, dès notre âge de raison, un amour extraordinaire de la recherche de la vérité. On a perdu du temps. On a mieux aimé faire des choses qui étaient selon notre goût, au point de vue artistique, au point de vue on a des fois perdu beaucoup de temps. Parce qu'on a essayé d'aimer blaguer, faire des mauvais coups. On a tous. Personne d'entre nous n'oserait dire, sauf peut-être la petite Thérèse. Mais comme elle n'est pas issue de nous, tu vois, corporalitaire. La petite Thérèse, elle n'a pas perdu beaucoup de temps. C'est même assez extraordinaire. Mais tous deux avons perdu du temps. Il y a l'âge bête. Et à ce moment-là, on ne développe pas beaucoup son intelligence. On aime de faire des bêtises pour se montrer intelligent. Et en se montrant intelligent, on perd du temps. D'une façon générale, quand on veut se manifester. Donc, on a tous perdu du temps. Et en perdant du temps, on n'a pas développé notre capital intellectuel comme on aurait pu le développer. Et donc on a perdu du temps et notre intelligence était au ralenti. Alors à partir d'un certain âge, dès qu'on entre au noviciat, on ne perd plus de temps. C'est la grande devise du noviciat. Je ne perdrai plus de temps dans la recherche de la vérité. Je ne perdrai plus de temps dans la recherche de l'amour de Dieu et du prochain. Le noviciat, c'est... Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on ne perd pas de temps. On essaie de ne pas perdre de temps. Il peut y avoir des tentations qui nous font perdre du temps. Mais très vite, dès qu'on en prend conscience, on rejette tout ça. Et on est dans une recherche nette et loyale de la vérité. Donc, au point de vue de l'exercice, mon intelligence ne se développe pas autant qu'elle le pourrait. Et pour chacun d'entre nous, c'est vrai. Et c'est comme ça. Je deviens intelligent parce que je ne veux pas perdre de temps. Mais au point de vue de sa nature, l'intelligence n'est pas abîmée dans sa capacité d'atteindre la vérité. C'est uniquement l'exercice.
Comment vous distinguez l'exercice et la nature ou la détermination?
L'exercice, ce sont les actes que je pose. Actes volontaires. Donc l'exercice met la volonté au service de la vérité. Tandis que la capacité de l'intelligence regarde ce qu'elle est. Dans son exercice propre, dans sa capacité d'atteindre la vérité. Il faut toujours distinguer les deux. L'exercice de tous mes actes dépend de ma volonté. Et c'est ma volonté qui est abîmée par le péché. Tandis que la capacité de poser tel ou tel acte relève de la nature même de mes facultés. On distingue, et c'est une distinction qu'Aristote a découvert et qu'on est en train de reperdre. C'est très curieux, des phénomènes comme ça. La phénoménologie ne distingue plus l'exercice et la capacité. Alors que pour Aristote, il y a le suppose qu'il y ait le comment.
Question sur saint Thomas. Vous avez dit hier que Dieu est un sage et non pas un scientifique. Pourquoi alors saint Thomas, dans le Dede Uno, dans la Somme, utilise-t-il la connaissance, l'analogie de la science pour parler de la connaissance de Dieu et non pas celle de la sagesse ? Ensuite, alors, trois objections qui se recoupent un peu toutes les trois sur la question de savoir si la sagesse est infuse ou acquise.
Ah oui, la sagesse, laquelle ?
Alors justement, je vous lis les trois. Donc première, la sagesse mystique, pour l'avoir, que faut-il ?
Il faut la demander. J'ai demandé la sagesse et elle m'a été donnée. Je supplie à Dieu de faire que mon don de sagesse soit de plus en plus grand. Et tous les jours, il faut le demander. De devenir un sage, divinement.
Et donc on objecte que si on doit coopérer, c'est donc qu'on l'acquiert.
On peut coopérer de deux manières. On peut coopérer avec un don qu'on nous a donné. Gratuitement avec le don. coopérer avec Dieu par un don que vous avez acquis, la philosophie. La coopération peut avoir deux manières très différentes.
La deuxième objection serait plutôt dans le sens inverse, c'est de dire, de se demander si la sagesse théologique n'est pas plutôt infuse que acquise, car elle suppose la parole de Dieu et la révélation, qu'on ne peut comprendre que par le secours de l'Esprit Saint. Il y a donc deux sagesses infuses et une acquise, qui serait la philosophie.
La sagesse acquise, c'est évidemment la philosophie. Devant un petit bébé qui est dans son berceau, oh, un métaphysicien. C'est Maritain qui dit que l'enfant a 2 ans à l'intuition de l'être. Peut-être qu'il l'a eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Et vous non plus. S'il y en a un parmi vous qui a eu l'intuition de l'être quand il était dans son berceau, il a regardé sa mère dans la lumière de l'être. Et sa mère a dit, oh, comme c'est admirable. C'est vrai que de temps en temps, des enfants ont des intuitions métaphysiques. Je cite toujours cet exemple, parce que c'est une mère qui aimait beaucoup son fils, que je connaissais, que je dirigeais, c'est pour ça qu'elle m'en a parlé. Pour que je l'estime encore plus. Alors, elle m'a dit, vous voyez, quand il avait 4 ans, un beau jour, je lui servais sa soupe. C'était l'hiver, bonne soupe chaude. Et puis, je vois mon petit garçon de 4 ans, rêveur. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que... Mais mange, quand c'est chaud, ça te fera du bien. Non, tu peux en manger. Pourquoi que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors, la mère lui dit, écoute, avant de découvrir l'éternité, ta soupe sera froide. C'est la mère qui ne l'avait pas, oui.
Enfin, quel rapport y a-t-il entre la contemplation que Dieu a de lui-même, donc Dieu possède la sagesse, et la contemplation que le philosophe peut avoir de Dieu? Comment peut-on acquérir quelque chose que Dieu seul possède?
Dieu seul possède. Vous voyez, c'est dans la possession qu'est la différence. On peut tendre vers la même sagesse, mais on l'acquiert tout à fait différemment. Dieu acquiert la sagesse en se contemplant. Moi, je n'acquiers pas la sagesse en me contemplant. Si je me contemple, je ne suis pas sage. Je ne peux acquérir la sagesse qu'en contemplant Dieu, et non pas moi. Dieu seul peut me donner la sagesse. Et c'est en contemplant Dieu que je suis sage. La vraie sagesse. Donc, ça peut être la même contemplation quant à l'objet, mais elle est acquise d'une manière toute différente. Et c'est le propre de Dieu d'acquérir la contemplation en se contemplant. Et le propre de l'homme, c'est d'acquérir la contemplation en se contemplant. D'acquérir la sagesse en contemplant Dieu, et non pas en se contemplant. Si je me contemple, je n'acquérirai jamais la sagesse.
Plus de questions.
Alors, on arrête les questions étant terminées. Et on commence, si vous voulez bien, le cours. Il faut bien le commencer. Peu importe, même s'il n'y en a plus que. Cette année-ci, on prend le point de départ de la philosophie. On reprend tout, puisque c'est un cycle. Alors, vous êtes des bienheureux cette année-ci, surtout ceux qui commencent, parce qu'ils font les premiers pas. Alors, je crois que la première question qu'on peut faire, c'est une question générale. C'est de voir que la philosophie recherche de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bon de dire que la philosophie est une recherche de l'homme et de la femme. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne pourra parler d'une manière vraie au plan théologique de Marie que si on avait une philosophie. La psychologie ne me dit rien de Marie, de rien en propre de Marie. Parce que ce qui caractérise Marie, ce n'est pas d'avoir une très grande finesse psychologique. Ce qui caractérise Marie, c'est la recherche de la vérité. Marie est la créature qui a recherché de la manière la plus assidue et la plus profonde la vérité. Ça caractérise Marie. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas parler avec exactitude de Marie si vous n'avez pas fait une recherche philosophique, une recherche ultime de la philosophie, la métaphysique. Au début, je n'avais pas compris du tout. Vieil oncle Perdueau m'avait dit, fais de la métaphysique pour pouvoir parler correctement de Marie. Hein? Si je vous dis ça, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? vraiment loin de Marie. Mais si je suis attentif, c'est très vrai, je ne peux parler correctement de Marie que grâce à la métaphysique. Parce que c'est grâce à la métaphysique que je peux découvrir ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme et la femme. Et ça, c'est important de comprendre que si nous faisons ensemble de la philosophie et de la métaphysique, c'est en tant qu'homme, c'est aussi en tant que chrétien. On ne peut parler correctement de Marie que grâce à la métaphysique. Parce que elle est la femme parfaite. Et la femme parfaite échappe à la psychologie. La femme imparfaite est plongée dans la psychologie. C'est pas une perfection d'être plongée dans la psychologie. La psychologie permet de découvrir toutes les limites de l'homme. Tout ce qui m'arrête. Mais elle ne me permet pas de découvrir ce qu'il y a de plus parfait. Parce que la psychologie étudie mon conditionnement, mon pouce et mon pas, mon tiesti. Le tiesti, seule la philosophie le saisit. Alors, première question qui se pose, c'est quel est le point de départ de la philosophie ? C'est une question critique. Mais c'est important. C'est bien ce que dit Petit Jean. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Et ça, c'est très important. Mon commencement. À partir de quoi ? Je fais de la philosophie. C'est une question capitale pour étudier les diverses philosophies. Je crois que quand je regarde la philosophie grecque, qui est le point de départ de notre philosophie européenne, quand je regarde le point de départ de la philosophie de l'Inde, c'est le point de départ de la philosophie orientale. Je vois que les points de départ sont très différents. Et je crois que les points de départ de la philosophie grecque, ce sont les points de départ de toute philosophie. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre combien la philosophie grecque est le berceau de la philosophie, pour nous, les fondements. Alors, je peux considérer comme le point de départ de la philosophie, en premier lieu, ce que je découvre intuitivement. Non, la philosophie, c'est le domaine de l'intuition. Beaucoup de savants ont dit ça. Claude Bernard a dit ça. La philosophie, c'est du sentiment. C'est du sentiment. Puisque pour lui, la vraie connaissance, c'est une connaissance méthodique. On a une méthode. Est-ce qu'on a une méthode en philosophie ? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez une méthode en philosophie ? C'est-à-dire une méthode, hein ? Méthodos, en grec. Odos, la voix, méta, avec. J'ai une voix avec moi. Comme disait le père Garrigou, promenez-vous de temps en temps avec un principe. l'avez jamais fait, hein, vous prenez avec un principe, c'est pas très drôle. On aime bien faire des gambades. Se promener avec un principe. Métodos. Méta avec odos, la voix. La méthode. C'est pas drôle, la méthode. Descartes. Il l'aime de la méthode. Ça, c'est sûr. Et il l'aime. Est-ce que la philosophie commence par une méthode ? Non. C'est le côté agréable de la philosophie. Mais beaucoup diront que la philosophie doit avoir une méthode. Je ne crois pas. La philosophie cherche, quand il s'agit d'une philosophie, qui essaie de comprendre le réel et non pas le possible. Les méthodes, c'est pour les réalités possibles. Tandis qu'au contraire, pour les réalités qui existent, alors on est au-delà de la méthode. On est en face de réalité qui elle-même s'impose à moi. On prend une méthode parce qu'on ne regarde plus la réalité existante qui s'impose à moi. Si je regarde une réalité existante, j'ai pas besoin d'une méthode. La méthode vient de l'homme, et la réalité existante ne vient pas de l'homme. Donc elle est plus radicale que la méthode. Si elle est plus radicale que la méthode, me servir d'une méthode, ce n'est pas saisir la radicalité de la philosophie. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que si vous prenez une méthode pour la philosophie, vous resterez en logique. Et vous ne serez jamais devant le réel. Parce que la logique, c'est un réel second, fait par l'homme. Et donc, c'est pas le réel tout court. Et parce que c'est pas le réel tout court, il y a quelque chose de plus radical. Or, le propre de la philosophie, et je crois que là, tout le monde est d'accord. C'est rare, en philosophie où tout le monde est d'accord. C'est que la philosophie cherche ce qu'il y a de plus fondamental, de plus radical. Je n'ai pas le droit de prendre comme point de départ de ma philosophie quelque chose de second. Parce qu'alors, je n'atteindrai jamais ce qui est premier. Or, la philosophie cherche à saisir la totalité du réel. Je n'ai pas le droit de rejeter quelque chose de second et quelque chose de premier. Le philosophe doit tout regarder. Il doit s'intéresser à tout en sachant que ce qui est second est second. Et s'il sait que ce qui est second est second, il cherche ce qui est premier. Parce que le propre de la connaissance philosophique, c'est de tout regarder. Il y a une exigence de totalité en philosophie. Et on n'a pas le droit de regarder manière secondaire ce qui est premier, parce que je l'atteins plus comme premier. C'est très étonnant de réfléchir sur ce point de départ de la philosophie. Il faut le faire. n'ai pas découvert ce qui est premier pour mon intelligence. Je n'ai pas le droit de le considérer comme le point de départ de ma philosophie. Parce que qui dit philosophie, dit connaissance exhaustive. Vous n'êtes pas, notez-le. Et vous me direz ce que vous mettez avant, ce qui est premier. La philosophie, ensuite, je précise, tout de suite, regarde le réel et non pas le possible. Je regarde le réel et non pas le possible. J'avais posé à Genève de venir faire une conférence sur quelle est pour vous, quelle sera pour vous la philosophie du 20e de l'an 2000. J'ai accepté parce que tu es intéressant. C'était des architectes, des ingénieurs, demandaient quelle est la philosophie. Parce que pour eux, si l'instrument est nouveau, la philosophie sera nouvelle. Et comme c'est intéressant, je dis amusant, est-ce que la philosophie regarde l'instrument? Oui, elle regarde l'instrument, mais comme instrument. Et donc, comme une réalité seconde. L'instrument est toujours une réalité seconde. Et donc je ne peux pas commencer ma philosophie par une philosophie d'instrument. Je peux faire la philosophie d'instrument. Je dois faire la philosophie d'instrument. Parce que je vois que quand l'instrument change, le travail change. Et si le travail change, il y a une philosophie du travail qui est différente. Donc, je dois faire la philosophie du travail. C'était même une des grandes lacunes de la philosophie occidentale, de ne pas faire de philosophie du travail. Alors on a été débordé par le marxisme, qui a voulu faire la philosophie du travail. Vous savez bien comment Marx se définit lui-même. Jusqu'ici, les philosophes n'ont pas changé le monde. Je veux que ma philosophie change le monde. Et parce que je veux que ma philosophie change le monde, je fais la philosophie du travail, la praxis. Parce que c'est la philosophie de l'efficacité. Tandis qu'une philosophie qui n'est pas une philosophie d'efficacité n'est pas une philosophie qui change le monde. Et c'est vrai, ça a été une des grandes lacunes de notre pensée occidentale. Alors certains ont accusé les théologiens de ça. La philosophie a été gardée par la théologie. Ce qui est très mauvais pour la philosophie. La philosophie n'a pas le droit de se laisser garder par la théologie. Parce que je veux sauver l'autonomie de l'intelligence humaine. Et pour ça, considérer que l'intelligence humaine a sa dignité propre. Les vrais théologiens le savent. La grâce ne supprime pas la nature. Si le péché originel n'a pas atteint la nature et l'intelligence, c'est parce que l'intelligence a son autonomie. Et donc, elle doit découvrir par elle-même ce qui pourrait être premier. Elle ne doit pas le demander à la foi. Non. Elle doit le découvrir par elle-même. Donc, vous sera plus facile.